Vous écoutez Europe 1, il est 22h.
Édition spéciale, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous. Et la cathédrale Notre-Dame de Paris continue à brûler. Ça fait plus de 3 heures maintenant, vous l'avez vécu en direct sur Europe 1, que le monde entier, sidéré, a les yeux rivés sur l'île de la Cité. La cathédrale qui se consume, sa flèche est déjà partie en fumée. Sa charpente va-t-elle résister? On va consacrer la totalité de ce journal, bien sûr, à ce terrible incendie qui frappe un joyau de notre patrimoine. Et on va d'abord rejoindre tout de suite l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 sur place, Théo Manval. Bonsoir Théo.
Bonsoir Isabelle.
Vous vous trouvez à quelques dizaines de mètres des tours de cette cathédrale qui est toujours en proie aux flammes.
Oui, les pompiers continuent d'arroser avec leur lance à eau les tours de la cathédrale alors que le feu continue de brûler dans les entrailles de Notre-Dame. Un feu qui éclaire la nuit d'un brasier couleur rougeâtre. Il a démarré un petit peu avant 19h cet incendie. L'origine n'est pas encore déterminée avec certitude, mais cela pourrait venir des travaux de rénovation puisqu'il semble que l'incendie soit parti d'une zone avec des échafaudages. Il s'est en tout cas propagé à une vitesse folle et avec une violence extrême, réduisant en cendres en quelques heures la charpente du 13e siècle et la flèche de Notre-Dame qui se sont effondrées dans un panache immense de fumée devant des riverains sous le choc à l'image de Jean et Sonia.
J'ai vu les flammes, enfin, j'ai regardé là, par ma fenêtre et j'ai vu des flammes et aussitôt j'ai senti que c'était, qu'il y avait quelque chose de grave et j'ai couru aussi vite que j'ai pu et j'ai vu l'incendie continue quoi et l'incapacité à calmer les flammes. Et...
toute la charpente là, on l'a vu se consumer et j'ai vu la flèche quand elle a balancé, carrément basculé vers les tours, comme ça. Bon, je l'ai vu tomber. C'est l'horreur. C'est 10 siècles qui disparaissent au milieu de flammes. Qu'est-ce que les gens vous disent?
Et toute la soirée, encore maintenant, on a vu des centaines de pompiers, hein, 400 hommes, s'activer au sein du large périmètre de sécurité. Mais leurs 18 lances à incendie semblent tout juste un mince filet d'eau face à l'ampleur du brasier. Et pendant que toute la charpente se consumait, on voyait quand même ces soldats du feu continuer à monter dans les deux tours de pierre de la cathédrale, aller à l'intérieur où l'incendie est toujours en cours. Un combat, Jean-Jacques Héril disait, il y a quelques instants, qui va durer toute la nuit, et le beffroi nord, la tour de pierre nord, risque même de s'effondrer, selon un porte-parole des pompiers.
Merci beaucoup Théo Manval. En direct, vous évoquiez le très délicat travail des pompiers. Ils sont 400 sur place en ce moment, mobilisés avec 18 lances à eau. Le sauvetage n'est pas acquis, c'est ce que dit à l'instant Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur. On n'est pas sûr de pouvoir enrayer la propagation au beffroi nord. Si celui-ci s'effondre, je vous laisse imaginer l'ampleur des dégâts. C'est ce que vient de déclarer le général Jean-Claude Gallet, qui est commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Alors c'est vrai qu'on est face à un monument exceptionnel et qu'il faut donc déployer des moyens exceptionnels qu'on utilise très rarement, comme le confirme Laurent Vibert. Il est ancien porte-parole des pompiers de Paris.
Le feu ronge, le feu fragilise, la charpente est en bois, elle est en plomb, tout est, à partir du moment où on est à un certain niveau de chaleur, tout est fragilisé et forcément tout ce qui est en pierre et qui est soutenu ou étayé par des pièces en bois viennent s'écrouler. Donc c'est pour aussi les secours, faire la part du feu, essayer de limiter à la toiture essentiellement, protéger en même temps l'ensemble des autres volumes qui ne sont pas encore touchés par le feu. Il faut mettre en place un dispositif adapté, mais dans des conditions en effet parisiennes. Typiquement, on est au cœur de Paris. Je rappelle que le point zéro de Paris, de la France, c'est devant Notre-Dame, c'est là. Donc il y a toute une force aussi d'identité. Il va falloir mettre en place un dispositif qui permette d'épargner le reste de la cathédrale. Ça, c'est le travail. Et puis dans les heures et surtout les jours à venir, il va falloir étayer, il va falloir faire un gros travail de poutraison pour pouvoir protéger notamment les murs pour que ça ne s'effondre pas.
Voilà l'ancien porte-parole des pompiers de Paris, Laurent Vibert. Alors vous le savez, Emmanuel Macron a annulé l'allocution tant attendue qu'il avait prévue ce soir pour se rendre sur place en compagnie de son épouse. Le président devrait prendre la parole d'ici quelques minutes. On l'écoutera évidemment dès qu'il s'exprimera. Bonsoir Michaël Darmon.
Bonsoir.
Ce lundi soir devait être celui de la présentation par le président de ces mesures issues du grand débat national pour calmer la colère des Gilets jaunes. Il a donc annulé. Il ne pouvait pas faire autrement ?
Oui, c'était d'abord impossible sur le plan technique parce qu'il faut savoir que cette allocution était enregistrée déjà depuis 18h, 18h30 environ et il était impossible tout simplement d'entendre des propos présidentiels sans évoquer ce qui se passait donc depuis 19h. Donc bien évidemment, cette décision, elle s'imposait techniquement. Mais au-delà de ça, elle s'imposait aussi,
de toute façon,
bien
il
évidemment,
fallait qu'il aille sur place,
symboliquement. Ouais. Il n'y avait pas de sujet, comme on dit, parce qu'on a bien compris très rapidement que l'ampleur du drame donc était effectivement effectivement considérable et on le voit encore de ce soir et on vient effectivement de vous entendre. On a bien compris qu'on est au tout début encore de ce drame parce que les autorités françaises admettent que ce soir elles ne pourront peut-être pas donc circonscrire et éteindre cet incendie. Donc on ne sait
peut-être
pas encore.
Peut-être le président attend-il d'y voir plus clair.
Et c'est la raison
avant
pour
de
laquelle
la parole, ouais.
C'est la raison pour laquelle il recule encore une fois ce soir sa prise de parole parce qu'il suit donc les événements. On l'a vu, hein, c'est un véritable état d'urgence patrimoniale qui est déclaré, qui est décrété depuis effectivement quelques heures. Tout l'appareil d'État s'est retrouvé, s'est réuni et l'Union nationale à laquelle on a assisté toute la soirée donc est manifeste parce que cette tragédie nous touche bien évidemment pour chacun d'entre nous.
Évidemment, juste un mot, on sait à quand cette allocution peut être reportée ?
Eh bien d'ores et déjà, on a bien compris que tout l'agenda présidentiel est bouleversé. Il devait y avoir une conférence de presse mercredi pour expliciter les propos de ce soir mais qui n'ont pas été tenus. Donc quand cela va-t-il donc se passer ? Il faudra d'abord que l'allocution soit prononcée pour ensuite pouvoir expliciter. Peut-être cela va-t-il amener Emmanuel Macron à reconsidérer toute la communication autour de cette crise des gilets jaunes. En tout cas, on a bien compris qu'à partir de ce soir, la vie politique est entre parenthèses.
Merci beaucoup Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1. Vous lisiez donc Emmanuel Macron au chevet de la cathédrale Notre-Dame de Paris, également sur place la maire de Paris, Anne Hidalgo, évidemment le Premier ministre, Édouard Philippe, qui parle d'une tristesse au-delà des mots tandis que des messages de soutien nous parviennent du monde entier. On va y revenir, mais d'abord je voudrais qu'on écoute Monseigneur Lalanne, il est évêque de Pontoise, très attaché forcément à ce joyau de l'Église catholique et bouleversé ce soir, d'autant que c'est un moment particulier, vous le savez, pour les catholiques en ce premier jour des célébrations de la Semaine Sainte qui mène à Pâques, principale fête chrétienne.
Extrêmement ému de ce que je suis en train de voir. D'abord personnellement parce que j'ai participé à des grandes célébrations, des ordinations. Je pense aussi à tous les fidèles qui viennent dans cette cathédrale, ceux de Paris mais ceux de France et d'ailleurs. Puis cette cathédrale, elle est le signe aussi de cette foi des bâtisseurs qui a été transmise de génération en génération. L'ancienne dimension historique, culturelle, et puis une dimension spirituelle, une forte charge symbolique. Et je crois que, quelles que soient nos appartenances religieuses, on ne peut être que touché par ce qui nous arrive. En même temps, je me dis, mais comment est-ce possible que un tel monument magnifique et important, si grande fragilité, si grande vulnérabilité, ben, je trouve que c'est terrible et je crois que je suis en communion avec tous ceux qui sont aussi dans la grande tristesse. Je viens de recevoir des messages multiples de gens un peu partout et qui me disent aussi leur tristesse et leur pleurs, et ben, je le partage.
L'émotion partagée de Monseigneur Lalanne, l'évêque de Pontoise, le Vatican exprime son incrédulité et sa tristesse et dit prier pour les pompiers et pour tous ceux qui font leur possible pour faire face à cette situation dramatique. Restez avec nous dans un instant, la suite de cette édition spéciale sur Europe 1. On continue à parler évidemment de cet incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. On sera avec Thierry Geffrotin qui nous parlera de ce patrimoine qui est en train de partir en fumée. À tout de suite.
Europe 1, édition spéciale. Isabelle Millet. Europe 1, édition spéciale. Isabelle Millet.
Il est 22h09, merci beaucoup d'écouter Europe 1. C'est la suite donc de notre édition spéciale consacrée à cet incendie qui est en train de ravager en ce moment la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous le vivons en direct sur Europe 1 avec Mathieu Béliard depuis 20h. Bonsoir Thierry Geffrotin.
Bonsoir Isabelle.
Thierry, je voudrais, afin qu'on se rende bien compte du drame pour notre patrimoine qui est en train de se jouer, Notre-Dame de Paris, c'est une somme de joyaux et de trésors, de chefs-d'œuvre, notamment le fameux orgue.
Oui, alors l'orgue, j'avoue, je pense qu'il est détruit. Parce que on voit les flammes qui continuent à se propager, qui sont tout près des tours. L'instrument, il est au-dessus, hein, il est collé contre les tours.
Plutôt,
voilà,
oui.
C'est ça. On l'avait au-dessus de soi quand on entrait dans la cathédrale. Les tuyaux sont en bois, des alliages d'étain et de plomb. Vous imaginez la chaleur, ça doit fondre. C'est un instrument unique. Alors, chaque instrument est unique, mais celui-ci, on dit que c'est l'instrument le plus grand du monde. Il a près de 8000 tuyaux, mais ça ne veut rien dire pour un organiste. Surtout, ce qui est important, cet instrument, c'est une œuvre d'art parce qu'il a été construit par un célèbre facteur d'orgue français qui s'appelait Aristide Cavaillé-Coll. Il a été repris, relevé, restauré depuis 1863, mais c'était une œuvre majeure de la facture d'orgue française. Des Cavaillé-Coll, vous en avez dans d'autres villes françaises et des grands Cavaillé-Coll à Saint-Ouen, à Rouen, à Caen, à Lyon. mais celui-ci, Notre-Dame de Paris, avec la symbolique évidemment du
bien
lieu,
sûr, ouais.
Cet orgue très important. La flèche aussi, même, alors c'est impossible de détailler tout ce qui a brûlé ou est en train de brûler. On a vu la flèche
qui s'effondrer sous nos
s'effondrer
yeux, oui,
sur, vraiment, elle-même. Cette flèche qui dominait avec les statues, les symboles des quatre évangélistes, et c'est Viollet-le-Duc, hein, le Viollet-le-Duc qui l'avait lui-même fait installer cette flèche, elle ne datait pas du Moyen-Âge. Vous aviez la toiture elle-même avec 250 tonnes de plomb et tout ça évidemment à brûler,
la charpente
500
hein,
tonnes
qui,
de bois
qui semble en train de céder là.
Oui, ouais. Alors la charpente, ça aussi c'est une œuvre d'art en soi, puisque c'est une forêt, voilà le terme technique, c'est une forêt. Vous avez 500 tonnes de bois, pour chaque poutre vous avez un chêne différent, vous imaginez. Et puis je vois que les pompiers maintenant s'attaquent, défendent contre le feu les tours de Notre-Dame,
parce qu'il y a les cloches
parce
dans
que
les tours.
Il y a en effet des cloches dans la tour nord, vous avez 8 cloches. Dans la tour sud, vous avez 2 bourdons, dont l'un fait 13 tonnes. Ces cloches avaient été installées en 2012. Ça serait une catastrophe. Alors tout ça repose sur des charpentes aussi.
Bien
parce
sûr.
Que c'est comme des charpentes de marine, vous voyez, parce qu'une cloche qui sonne, un bourdon de 13 tonnes, vous imaginez ce que ça met en branle. Hein. Vous imaginez le battant, c'est comme... Moi, j'ai entendu un grand bourdon se mettre en route comme ça. Vous avez l'impression d'être dans un bateau à voile du 17e siècle, vous entendez le bois qui craque, mais tout ça c'est une charpente qui le tient, parce que derrière la pierre...
Et donc ces cloches peuvent tomber si la charpente cède.
Alors écoutez, je n'espère pas, là, il y a de la pierre, mais tout ce qu'on voit, c'est très inquiétant, en effet, très inquiétant.
Merci en tout cas, merci beaucoup Thierry Geffrotin, spécialiste culture à Europe 1. On est tous affectés hein, par ce qui se passe en ce moment sous nos yeux, ces images qui nous bouleversent, qui vous bouleversent et qui bouleversent peut-être encore plus particulièrement Stéphane Bern, qui était l'invité d'Europe 1 ce soir.
Quand vous voyez combien j'ai des difficultés à sauver quelques églises de nos campagnes, le patrimoine national, et que, en quelques minutes, un chef-d'œuvre, le trésor des trésors, le joyau de notre patrimoine, disparaît. Mais comment, après, vous allez demander aux Français, il faudra quelques milliards pour sauver Notre-Dame de Paris. On n'a pas la volonté, ni politique, ni morale pour relever Notre-Dame de Paris. Et c'est ça qui me désespère, c'est qu'au fond, j'aimerais qu'il y ait un élan tout d'un coup national de dire mais bon sang, on ne peut pas laisser Notre-Dame de Paris brûler. C'est notre âme, c'est notre histoire qui brûle, mais c'est plutôt on brûle en enfer là.
L'amoureux du patrimoine, Stéphane Bern. La classe politique française de tous bords dit également son effarement et sa tristesse ce soir. Totalement bouleversée, notre histoire millénaire, notre mémoire, notre culture touchée au cœur, a tweeté le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Les images de Notre-Dame de Paris en flammes brisent le cœur, a réagi la secrétaire d'État, Marlène Schiappa. Pensée pour les fidèles et pour tous ceux qui, n'ayant pas la foi, sont attachés à ce joyau de notre histoire, a tweeté Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. Le patron des Républicains, Laurent Wauquiez, dit sa désolation en voyant partir en fumée ce symbole de nos racines chrétiennes, de la littérature de Victor Hugo. C'est toute une part de notre histoire, de nous-mêmes, qui brûle ce soir. Jean-Luc Mélenchon, lui, se dit sidéré devant un immense malheur, tandis que Marine Le Pen manifeste son soutien aux pompiers. Lui aussi est profondément affecté, et on le comprend. C'est l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë.
C'est un grand malheur qui nous arrive, et moi je le ressens comme un coup au cœur, effectivement. Voilà, c'est un drame, c'est terrible. Mais cette tristesse qui est très largement partagée, vous savez, c'est pas pour rien que Notre-Dame de Paris est classée au patrimoine mondial, j'insiste, de l'humanité, j'insiste aussi. Donc voilà, c'est une épreuve terrible, part en fumée quelque chose que les générations précédentes nous ont légué, qui est magnifique, qui est intemporel, qui est spirituel, bien sûr qui appartient aux catholiques, mais bien au-delà, à toute l'humanité, et donc... Il faut accepter ce malheur, et en même temps il faut être déterminé à faire vivre Notre-Dame de Paris. Il faut que toutes les bonnes volontés, toutes les forces se rassemblent pour reconstruire ce qui aura été détruit, car voilà, nous le devons générations futures.
Bertrand Delanoë qui, comme tous les Parisiens et les amoureux de Paris, regarde ce soir les larmes aux yeux, leur cathédrale se consumer. À l'instant, la Fondation du patrimoine indique qu'elle lancera dès demain une grande collecte nationale pour sauver, donc j'imagine, ce que l'on pourra encore sauver de cette cathédrale de Paris. Beaucoup d'émotions aussi parmi ces badauds et ces touristes présents sur l'île de la Cité, où vous vous trouvez, Mathieu Bock.
Oui, ils sont toujours plusieurs centaines, les yeux rivés sur la lumière orange qui se reflète dans la fumée qui s'échappe de Notre-Dame. Certains filment ou racontent au téléphone à des proches, d'autres restent silencieux. Pierre et Laurent, eux, vivent dans le quartier. Ils sont venus ensemble pour voir Notre-Dame partir en fumée.
Là, je vois Notre-Dame de Paris qui est en train de partir en flammes.
Voilà. Moi, je vois l'âme de Paris qui est en train de partir en flammes. C'est vraiment le monument le plus symptomatique du pays. C'est 850 ans d'histoire, c'est même plus important que Versailles et les Tuileries et le Louvre.
Et puis surtout, si on est tous venus ici, c'est parce qu'on a tous ressenti une émotion collective. Oui. Moi, je suis pas catholique, je suis pas croyant, mais je sais pas, ça m'a fait quelque chose peut-être autant d'une... Je sais pas, plus que les attentats, mais d'une manière très importante, c'est vraiment quelque chose d'historique, quoi.
J'étais à côté du 13 novembre quand ça est arrivé, et c'est il y a un sentiment d'un truc qui échappe là, un truc qui marche plus là. C'est clairement l'âme de Paris, c'est Quasimodo, c'est des romans par milliers, c'est de la littérature, ouais. c'est une spiritualité, c'est plein de choses. C'est un monument incroyable. J'ai vu des touristes pleurer. Il y a quelque chose de dramatique.
Alors des gens se sont rassemblés spontanément par petits groupes et depuis plus d'une heure maintenant, ils chantent « Je vous salue Marie » en fixant des yeux Notre-Dame qui brûle à plusieurs centaines de mètres de là.
Merci beaucoup Mathieu Bock. Sur l'île de la Cité, face donc à cette cathédrale en feu, de Londres à Berlin en passant par Washington, des messages de soutien nous parviennent. L'UNESCO également se dit aux côtés de la France pour sauvegarder et pour réhabiliter ce patrimoine. Il faut dire aussi que cet incendie, il est retransmis en direct sur les chaînes info du monde entier. Notre-Dame de Paris, c'est comme la Tour Eiffel, ça représente Paris, tout le monde la connaît évidemment. Bonsoir Xavier Yvon.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 en direct des États-Unis. Xavier, j'imagine que les Américains aussi sont sensibles à ce qui se passe ici.
Ah oui, et comme vous l'avez dit, les chaînes d'info aussi diffusent en direct les images de Notre-Dame en flammes, et même les grandes télé généralistes, vous savez, NBC, ABC, CBS, eh bien, ont interrompu leur programme de l'après-midi pendant une heure pour des éditions spéciales. Notre-Dame, c'est le monument que tous les touristes américains doivent visiter quand ils viennent à Paris, avec la Tour Eiffel évidemment. Le cardinal de New York est allé tout à l'heure prier à la cathédrale Saint-Patrick, c'est un autre fameux monument gothique. De nombreuses personnalités disent leur émotion, jusqu'à Donald Trump et sa femme Melania. Le président américain vient tout juste de déclarer que Notre-Dame était l'un des grands trésors du monde. Et un peu plus tôt, il avait tweeté, je le cite, qu'il fallait peut-être envoyer des bombardiers d'eau. Alors la sécurité civile française lui a répondu par tweet aussi que ça provoquerait l'effondrement de la cathédrale. Et puis, je voudrais ajouter une petite note personnelle, parce que vous savez, quand on habite New York, toute proportion gardée, évidemment, l'image de la flèche qui était pondre dans les flammes, ça fait penser aux tours jumelles. Et je vous dis ça parce que tout à l'heure, je suis passé devant le World Trade Center, reconstruit la nouvelle tour, qui est à nouveau un symbole de la vie.
Eh bien, merci pour ce beau symbole de la vie. Merci Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 en direct de New York, édition spéciale aux États-Unis, et vous nous le disiez, et édition spéciale qui se poursuit évidemment en direct sur Europe 1. On va marquer une nouvelle pause, si vous le voulez bien, et puis on retournera en direct sur l'île de la Cité, rejoindre l'un des reporters d'Europe 1 pour faire le point sur le travail des pompiers. À tout de suite.
Europe 1, édition spéciale.
Suite de notre édition spéciale consacrée donc à ce dramatique incendie qui ravage toujours en ce moment la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les pompiers sont toujours au chevet de l'édifice. On n'est pas sûr de pouvoir enrayer la propagation du feu, dit l'un des responsables des secours. Notre-Dame de Paris, qui a été le témoin au cours des siècles d'une histoire tourmentée. Bonsoir Julien Pierce.
Bonsoir Isabelle.
L'édifice a à plusieurs reprises échappé à des catastrophes.
Oui, avec tout d'abord la Révolution française en 1789. À la suite de la prise de la Bastille, la capitale, est à feu et à sang et de nombreux actes de vandalisme visent la cathédrale. Les statues de la Galerie des Rois, situées sur la façade, sur la balustrade, sont soit décapitées, soit enlevées, car les révolutionnaires pensent qu'il s'agit de monarques français. En réalité, ce sont des rois de Juda. Toutes les grandes autres statues des portails sont également détruites, mais heureusement, aucun incendie ne se déclare dans la cathédrale. En revanche, près d'un siècle plus tard, en 1871, pendant l'insurrection dite de la commune de Paris, des émeutiers entrent dans Notre-Dame avec des barils de pétrole avec la ferme intention d'y mettre le feu. Quelques bancs et quelques chaises sont incendiés, mais les flammes ne se propagent pas et sont rapidement maîtrisées. La cathédrale Notre-Dame doit son salut à l'intervention d'internes en médecine de l'Hôtel-Dieu, l'hôpital situé juste à côté. Ce sont eux qui ont réussi à éteindre ce début d'incendie qui aurait pu être catastrophique. Autre événement majeur, la fin de la Première Guerre mondiale, mars 1918. Les Allemands lancent alors une immense contre-offensive. Les les troupes du général Ludendorff arrivent à s'approcher à une centaine de kilomètres de la capitale, suffisant pour utiliser le plus gros canon de l'histoire, la grosse Bertha, comme l'appellent les Français. C'est une pièce d'artillerie à très longue portée, envoyant des obus pesant 125 kilos. Près de 400 d'entre eux tombent sur Paris en l'espace de 4 mois. L'un d'entre eux tue 75 personnes en pulvérisant la toiture de l'église Saint-Gervais, une église située à seulement 300 mètres à vol d'oiseau de Notre-Dame de Paris. Dernier événement qui aurait pu avoir des conséquences là aussi catastrophiques, le projet d'attentat en septembre 2016 qui visait la cathédrale. Une voiture contenant 6 bonbonnes de gaz et 3 de gazole égarée près de Notre-Dame par un commando de femmes djihadistes. Par chance, encore une fois, la cigarette utilisée pour faire exploser l'engin s'éteint après le départ des deux terroristes. Voilà donc au cours des 8 siècles d'histoire qui viennent de s'écouler les principales catastrophes auxquelles a échappé Notre-Dame de Paris. Une cathédrale donc qui a eu beaucoup de chance jusqu'au terrible incendie de ce soir.
Incroyable histoire que celle de Notre-Dame de Paris. Merci beaucoup Julien Pierce. Nous sommes maintenant en ligne, en direct avec Monseigneur Di Falco. Bonsoir Monseigneur.
Oui, bonsoir.
Évêque émérite, vous avez appris je crois la nouvelle alors que vous vous trouviez à Gap.
Non, je me trouvais à Marseille puisque je ne suis plus à Gap. Maintenant, je suis donc évêque émérite. Mais je me trouvais à la cathédrale de Marseille puisqu'il y avait ce soir la messe chrismale, donc avec l'archevêque et un grand nombre de prêtres de Marseille, les évêques auxiliaires. Et la rumeur s'est répandue, mais pendant la célébration, c'était difficile d'en savoir plus. Mais disons la rumeur et puis l'émotion s'est répandue parmi nous parce qu'on n'avait pas beaucoup d'informations. Sinon, on savait qu'un feu venait de se déclarer à Notre-Dame de Paris.
Et puis j'imagine que vous avez vu les premières images sur les chaînes.
Et donc, on s'est précipité ensuite sur nos téléphones dès la fin de la célébration. Et puis ensuite, bien sûr, la radio dans la voiture du retour. Et vraiment, c'est difficile de trouver les mots pour exprimer ce que je ressens personnellement. Vous savez, j'ai été évêque auxiliaire de Paris pendant 6 ans. Donc, je suis venu très souvent à la cathédrale. J'ai été ordonné évêque par le cardinal Lustiger à Notre-Dame de Paris. Donc, la cathédrale, je la connais bien. J'avais eu le privilège, il y a quelques années, pendant des travaux, de pouvoir monter dans les charpentes et visiter les charpentes. Et c'était impressionnant de se dire que ce que l'on voyait là, en grande partie, avait été réalisé par des charpentiers au Moyen-Âge.
Oui.
Donc c'est toute l'histoire de notre pays qui a traversé la cathédrale, et là que l'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant, je pense que c'est un lieu emblématique, symbolique pour nous les chrétiens, mais aussi pour l'ensemble des Français. Et on voit bien dans les réactions qui parviennent aujourd'hui dans le monde entier, ce lieu n'était pas n'importe quel lieu.
Dans une période, vous le disiez, particulière pour la communauté chrétienne en ce moment, puisqu'on est proche des fêtes de Pâques.
Absolument, puisque c'est le premier jour de la Semaine Sainte, donc c'est une semaine importante pour l'ensemble des chrétiens, et c'est une véritable, vraiment, douleur et émotion de voir ce qui se produit là et de se demander comment va-t-on pouvoir faire face à la restauration qui sera nécessaire.
Oui, justement, la Fondation du patrimoine indique qu'elle va lancer dès demain une grande collecte nationale pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il y aura certainement effectivement énormément de travail au vu de l'ampleur des dégâts. Merci en tout cas infiniment, Monseigneur Di Falco, d'avoir été en direct avec nous ce soir sur Europe 1 pour cette édition spéciale. Merci, très bonne soirée à vous.
Merci à vous. Merci à vous.
On va tout de suite repartir sur place, sur l'île de la Cité, rejoindre l'un des reporters d'Europe 1, Jean-Jacques Herry. Bonsoir Jean-Jacques.
Bonsoir Isabelle.
Est-ce que les flammes sont toujours apparentes ou est-ce qu'on commence à voir un peu le fruit du travail des pompiers ?
Eh bien le travail et les efforts des pompiers semblent en tout cas en partie avoir payé. On n'observe plus de flammes, plus de halo rougeâtre, notamment au niveau de la tour ouest de l'édifice. C'était le cas il y a encore une heure. Et surtout, on aperçoit des pompiers visibles grâce à leur lampe frontale. On aperçoit des pompiers à l'intérieur même de cette tour ouest. C'est donc sans doute un bon signe. Mais avec ce type de sinistre, il faut rester très prudent. Ça fait maintenant plus de 3 heures que les pompiers luttent contre les flammes. Et malgré les moyens conséquents, 400 pompiers, 18 lances à eau déployées, le sauvetage de Notre-Dame, eh bien, il n'est pas acquis. C'est ce qu'a dit tout à l'heure le secrétaire d'État à l'intérieur, Laurent Nouniès. Et après l'effondrement de la flèche de la cathédrale, la crainte maintenant, c'est celle d'un nouvel effondrement, d'un effondrement éventuel du beffroi nord du monument. Et c'est contre ce risque que les secours vont devoir lutter pendant une bonne partie de ce qui va être une très longue nuit pour les sapeurs-pompiers de Paris.
Merci beaucoup Jean-Jacques Herry, en direct donc sur l'île de la Cité devant cette cathédrale Notre-Dame de Paris qui est toujours en proie aux flammes. Évidemment, on va y revenir très très largement dans tous nos prochains rendez-vous d'information sur Europe 1. On interviendra notamment quand le président de la République aura pris la parole, puisque vous savez qu'Emmanuel Macron ainsi qu'une grande partie du gouvernement se trouve sur place actuellement. Restez à l'écoute, on vous tient évidemment informés le plus souvent possible de l'évolution de cet incendie.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
On va quand même faire un tour rapide des autres grands titres de l'actualité ce soir, avec notamment la condamnation de l'essayiste d'extrême droite Alain Soral. Un an de prison ferme pour négationniste et un mandat d'arrêt. Le tribunal est allé au-delà des réquisitions du parquet. Alain Soral va faire appel. L'ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, renvoyé devant la Cour de justice de la République pour violation du secret professionnel. Il est soupçonné d'avoir transmis une note confidentielle à Thierry Soler sur une enquête préliminaire visant ce dernier alors qu'il était au gouvernement. En Allemagne, l'ancien patron de Volkswagen, inculpé notamment pour faute grave, il était aux commandes du groupe lors de la révélation du Dieselgate. Plus que jamais, on s'achemine vers un procès dans cette affaire qui a déjà coûté près de 29 milliards d'euros aux constructeurs. Le groupe de charcuterie traiteur Fleury Michon annonce avoir été victime d'un virus informatique qui l'a obligé à suspendre sa production pendant 5 jours. Tous les systèmes ont été déconnectés pour éviter la propagation et la production a pu reprendre aujourd'hui. Les cas de rougeole dans le monde ont augmenté de 300% au premier trimestre, chiffre fourni par l'Organisation mondiale de la santé. En Afrique en particulier, la hausse est spectaculaire, 700%. On rappelle que la rougeole est l'une des maladies les plus contagieuses au monde pour laquelle il n'existe pas de traitement, mais un vaccin efficace et sûr. C'est la défiance envers les vaccins justement qui a conduit à la recrudescence de cas. Et puis une grève illimitée depuis ce matin dans plusieurs services d'urgence des hôpitaux de Paris. Le personnel dénonce des conditions de travail devenues insupportables, patients de plus en plus nombreux, parfois violents, effectifs insuffisants et salaires trop bas. Et on va jeter un œil tout de suite sur la météo, parce que c'est important également. Et c'est avec vous Elena Morna, avec d'abord bonne nouvelle, le retour au calme dans le Pays Basque après les pluies orageuses de ce soir.
C'est vrai Isabelle qu'après avoir atteint 25 degrés cet après-midi à Biarritz, les températures ont brutalement chuté d'une dizaine de degrés en l'espace de quelques minutes. Et bien c'était à cause de la galère, un vent frais et humide qui s'est abattu sur le Pays Basque ce soir, provoquant donc ces averses orageuses localement violentes. Alors ça se calme en ce moment, retour des éclaircies demain matin sur l'ensemble de la façade atlantique. À l'avant, ce sera de la pluie entre la Normandie et la Méditerranée, des pluies plutôt musclées hein, entre le sud de l'Auvergne et le golfe du Lion, localement quelques flocons. Alors les pluies, elles circuleront rapidement vers l'est et le nord de la Seine l'après-midi. Retour de quelques éclaircies sur la Normandie jusqu'au Roussillon. Et puis le Nord-Pas-de-Calais et les Ardennes seront finalement les seuls secteurs épargnés. Les températures, petit fléchissement quand même sous la pluie par rapport à aujourd'hui. Comptez entre 13 degrés pour Le Havre et Auxerre, jusqu'à 21 degrés à Mont-de-Marsan demain après-midi. 15 à Lorient, à Rouen, à Paris, à Lyon ou encore à Nîmes. Des températures qui vont remonter mercredi jusqu'à lundi. Votre week-end pascal sera beau et chaud sur le nord de la Loire, un peu moins beau au sud.
La météo signée, Elena Morna. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. À tout de suite.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Vous le savez, habituellement à cette heure-ci, on jette un œil sur les unes de vos journaux. Évidemment, ces unes ont été bouleversées avec cet incendie dramatique qui touche en ce moment, qui ravage la cathédrale Notre-Dame de Paris. La cathédrale qui est à la une de tous vos quotidiens. Demain, c'est bien simple. On la voit en flammes avec cette flèche en train de s'effondrer à la une du Figaro qui titre Notre-Dame de Paris, le désastre. Tandis que pour l'opinion, Notre-Dame en flammes, sidération mondiale. L'émotion considérable soulevée par cet incendie a obligé le président à reporter son allocution télévisée qui devait être théoriquement diffusée ce soir. Photo très impressionnante également en pleine page en une de Libération qui titre « Notre drame ». Et là encore, il y a cette flèche qui commence à fléchir et à tomber avec ces flammes qui l'entourent et ces nuages de fumée. La tragédie de Paris pour les Échos, une émotion mondiale considérable, intervention d'Emmanuel Macron repoussée, tandis que CNews titre sur la désolation. Voilà donc pour ce tour d'horizon très rapide de ces unes de la presse consacrées à cet incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris que nous avons tenté de vous faire vivre en direct depuis 20h sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Évidemment, nous y reviendrons en détail dans tous nos prochains rendez-vous d'information. On attend notamment l'intervention d'Emmanuel Macron qui s'est rendu sur place. Je vous souhaite une excellente soirée et vous allez la passer cette soirée en compagnie de Caroline Veil pour la Libre Antenne. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Isabelle.
Très belle soirée à vous et je vous dis à tout à l'heure 23h pour un prochain point sur l'info.